Mémoire du Couzon ce dimanche matin, Raymond Gabart va nous amener sur le mythique Mont-Valier. Raymond, bonjour.
Eh bien oui, voilà, c'est vrai que c'est le Mont-Valier pour les Couzoranais, c'est une emblème. Voilà. Alors bonjour à vous, à tous les auditeurs, bien entendu fidèles, hein. Je me répète, mais il faut le redire. Hein. Et à ce rendez-vous hebdomadaire. Hein. Alors restons quand même dans cette nature merveilleuse, j'en ai parlé la semaine dernière, et avec ces sites donc exceptionnels qui font le charme du Couzeran, et sans trop de fatigue, donc je ne veux pas vous fatiguer, nous allons partir à la découverte donc de ce mythique sommet qu'est le Mont-Valier, à juste titre appelé le Seigneur du Couzeran. Et qui fait depuis toujours rêver donc ce qu'on appelle les pyrénéistes, parce qu'on peut l'atteindre donc de plusieurs vallées, et ce n'est pas le plus haut, mais quand même avec ses 2839 mètres, donc par rapport à ce environnement du département ou autre, quand même c'est le seul où justement on parle de croix, se trouve des croix. Il y a tous les sommets n'ont pas des croix. Qui sont, j'ajouterai, si proches du ciel, hein, puisqu'elles sont à 2800 mètres d'altitude. Voilà. Et puis, alors à ce sujet, il y a toute une histoire, on pourra en reparler, mais il y a aussi de nombreuses légendes qui lui sont attribuées. Et alors il faut ajouter quand même que ce Mont-Valier est visible depuis les plaines du pays toulousain, donc, et exactement depuis le pont Saint-Michel à Toulouse, par temps clair, on découvre le Mont-Valier, et sa forme, on peut dire, rappelle un peu le pic du Midi de Bigorre, dont il a d'ailleurs sensiblement la même altitude. Et alors, cette cime est l'orgueil des montagnes du Saint-Gironais, et elle cache même au pied de la face nord le glacier, donc le fameux glacier d'Arcouzan. Et c'est un des rares glaciers qui n'avait pas trop bougé, maintenant ça commence à diminuer. Mais ce glacier qui retient l'attention de spécialistes et qui fait régulièrement l'objet d'études, et ce à l'initiative donc du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui a organisé du moins plusieurs expéditions avec bien sûr des experts géomètres, des géologues, donc tout cela pour étudier son évolution, hein, voilà, de ce fameux. Voilà. Mais au fait, pourquoi ce nom, le nom de cette montagne? Alors il a pris le nom du premier évêque du Couzeran, Valérius, Saint-Valier, avec un seul L. On peut l'écrire avec les deux, mais normalement ça s'écrit avec un seul L. Et qui est donc Valérius, qui vers le 5e siècle, d'après la tradition, fit une mémorable ascension sur ce pic pour y ériger une croix. C'était un des membres de cette puissante famille gallo-romaine, influente surtout dans les vallées pyrénéennes, et qui a laissé d'ailleurs une inscription sur la première pile du pont donc, de la cité toute proche de Saint-Lizier. C'est lui qui va prêcher également l'évangile en Couzeran, et la tradition veut qu'on lui attribue la toute première ascension en revenant d'Espagne. Et c'est après donc cela qu'il fit édifier une première croix pour offrir à Dieu tout le pays du Couzeran. Alors on peut dire que c'est Valérius Saint-Valier qui le premier a fait l'évangélisation du pays. Alors sur ce sommet, devenu mythique, il y a eu plusieurs croix de poser. Et au cours des siècles, on en reparlera, mais de toute façon, là, ça me fait penser que le magnifique magazine L'Ariégeois, il consacre 7-8 pages avec un reportage et des photos magnifiques, vous voyez, sur ces croix. Mais il y a de quoi dire, d'ailleurs. Donc, comme je dis, il y a eu plusieurs croix, et d'autant que les Couzeranais, les pyrénéistes également, et bien au-delà, quelles que soient leurs croyances, d'ailleurs, sont très attachés donc à ces emblèmes, hein, voilà, et on n'est pas obligé d'être croyant. Et alors à ce sujet, Pierre d'Ardenne, j'en avais parlé aussi, qui fut nommé en 1801 directeur de l'école centrale de l'Ariège. Alors j'ajoute que cette école centrale de l'Ariège était installée à Saint-Jérôme sur la demande du préfet Brun. Et M. d'Ardenne va entreprendre une vaste étude donc sur tout le département. Et à ce titre, il sera un des premiers, donc, dans ces années 1801-1802, à gravir avec une collée, donc, avec le fameux collège, donc, et ce qu'on appelait l'école centrale, donc. Il y avait également d'autres enseignants comme lui. Il va découvrir cette montagne, ce qui va lui permettre de la décrire, la considérant donc comme étant une des principales de toutes les Pyrénées. Et alors, ayant emporté également deux baromètres, donc en mercure, pour déterminer le plus précisément possible d'ailleurs la hauteur de ce mont, qui, quoique paraissant arrondi de loin, a de sommet distant environ de 150 mètres, hein, il y a deux saisons. Et alors, l'espace qui les unit n'ayant guère que 2 ou 3 mètres de longueur. Et alors, sa cime a été redécouverte, est recouverte de rochers, donc, et des rochers qui se sont détachés et des fragments également éclatés. Et alors, toujours d'Ardennes, qui a écrit énormément d'ailleurs, et puis c'est un livre entier, moi, que je m'étais procuré il y a plus de 20 ans, là, et il décrit la face nord, donc, qui est dégradée, proche de la perpendiculaire, des précipices horribles, effroyables, et qui sont à considérer. Et également, il parle d'un côté qui était inaccessible, au contraire, donc, de la face qui regarde le midi, et qui est considéré d'ailleurs comme seul ou presque praticable. Et à cette date, je vous rappelle, en 1800, hein, il trouva au sommet déjà 2 croix. Dont une avait des inscriptions gravées, et il va se proposer également de vérifier l'existence d'un glacier, vous voyez déjà. Et dans son recueil, également, vous avez notre poète, écrivain, couseranais, et moi que j'affectionne bien, c'est Louis-Henri d'Estelle, qui a décrit ce pic comme un véritable belvédère, dès que la mer de nuages se disloque. Et c'est vrai que tout autour, les frères, entre parenthèses, du Mont-Valier, et au-delà de la frontière, donc, puisqu'il y a la trouée du plat de Béret, également la malade d'État, la Rocco Blanca, et même au lointain, le Montardo. Voilà. Et puis après, on peut voir aussi le Mont Calm, la pique d'Estat, qui culmine quand même à 3140, voilà, ou 41 mètres. Et encore plus loin, d'ailleurs, dans cet horizon, en demi-teinte, bien sûr, bleuâtre, ça c'est sa description, hein, dans un tableau, les montagnes de l'Aude et des Pyrénées orientales. Et à l'ouest, la Maille des Bullards, bien entendu, est-ce que du côté de Saint-Aine, la Mangeuse d'Hommes. Alors, le Mont Bermet, qui lui culmine à 2880 mètres, également le Crabert, autre sommet couseranais mythique, j'ajouterai. Et on peut même apercevoir la plaine de Tarbes et le pic du Midi de Bigorre. Et bien sûr, on balait toute l'Ariège, le canton de Saint-Girons, la plaine de Pamiers, la plaine de Toulouse, forcément Salisse du Salat, Marthe Tolosane, Muret, et bien sûr, comme je l'ai dit au début, la Ville Rose, hein, à l'extrême horizon, j'ajouterai. Alors il faut que vraiment le temps soit exceptionnellement clair, voilà. Et alors ce n'est pas quand même le toit du monde, mais la vue est grandiose. Et alors cette situation privilégiée explique, peut-être, mais certainement même, l'engouement qu'il y aura au cours des siècles à gravir ce sommet. Et parmi les pionniers, il y a eu Jean-Pierre Pagès. Alors, Jean-Pierre Pagès, qui était originaire de Seixe, avocat, grand journaliste également, et plus tard d'ailleurs député de l'Ariège, qui était nommé vers 1810 à la tête également du parquet de Saint-Girons, hein, fera l'ascension depuis Seixe, par le flanc est. Et alors, il écrira, puisque lui aussi a écrit ses mémoires, qu'il se soutiendra devant la classe des belles lettres à l'Académie royale des sciences. Donc, vous voyez, il avait fait un genre de thèse. Et alors, le seigneur du Couseran sera attaqué, si l'on peut dire, hein, entre parenthèses, sous tous les angles, par de nombreux excursionnistes, plus ou moins célèbres, de par leur personnalité ou connus, comme Marc de Lassus, ou Laure Russell, le comte Laure Russell, en 1864, qui a écrit également pas mal sur les Pyrénées. Et, alors, pas toujours d'ailleurs avec succès, parce qu'il y en a qui ont également ont été obligés d'abandonner. Et c'est aussi vers la fin de ce 19e siècle, de nombreux esquiers ecclésiastiques. Alors ça m'avait frappé, et il y a énormément d'ecclésiastiques qui, en soutane entre nous, donc gravissaient ces, par plusieurs d'ailleurs chemins, dont l'abbé Codurban, également l'abbé Perpère, qui était curé de Castillon, l'abbé Saint-Cernin, qui était curé d'Arien, en Médemal, ou encore l'abbé Castette. Et l'abbé Castette, bien connu, avec ses contes et ses pièces de théâtre en gascon, qui était curé de Balaguer, et qui était un habitué, lui d'ailleurs. Il faut que j'en parle, cet abbé Balaguer, parce qu'il il s'est investi drôlement, lui, dans le Couserans. Et alors, à cette époque, il y a également quelques célébrités, comme Caralp, qui était maître de conférences, donc à la fac de sciences. Également, il y avait Régnaud. Alors Régnaud, qui était membre de l'anthropologie et également grand photographe. Et c'est vrai qu'on lui doit énormément de clichés, notamment sur la vallée de Bédemal. Vous voyez, là, il a fait pas mal de clichés en 1885. Vous voyez, donc c'est presque les plus anciens clichés connus sur notre Couserans. Et puis, bien sûr, parce que j'en ai parlé il y a plusieurs années, Eugène Truttat. Alors Eugène Truttat, qui était à cette époque-là conservateur du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, et qui fut un des plus grands photographes de cette fin du 19e siècle. C'est vrai qu'on a retrouvé des dizaines de milliers de clichés, toujours tirés sur des plaques de verre. Et lui aussi, d'ailleurs, a fait de très beaux reportages et sur Saint-Giron et sur le Couserans, le folklore, Saint-Lizier ou autre. Il y avait même une exposition à Saint-Lizier il y a 4-5 ans. Voilà. Mais avant, quand même, il a fait, par rapport à ses clichés, sur des plaques de verre donc, de toute la région, et notamment le Mont-Valier. Et oui, le Mont-Valier, il a fait des clichés sur Foix, Saint-Giron, Saint-Lizier, ce qui fait que c'est des témoignages, moi je dis, très importants. Hein. Alors, Eugène Truttat, qui est un illustre scientifique quand même, hein, et qui a honoré donc par ses clichés toute notre petite région. Et d'ailleurs, il finira sa vie dans la cité comtale à Foix. Voilà. Et alors, on retrouve de nombreux récits de ces inscriptions donc, dans des revues, des bulletins, des journaux comme le Conservateur de l'Ariège, l'Étoile de l'Ariège, la Revue des Pyrénées, les bulletins du Sud-Ouest. Et c'est vrai qu'avant la presse était florissante, hein, et ce qui permettait d'ailleurs de tout le monde de pouvoir s'interpréter, donc sans retenue même, j'ajouterai, parce qu'il y avait la pluralité de la presse. Et aussi donc dès le début du XXe siècle. C'est ainsi que la jeunesse, entre parenthèses, couseranaise, va prendre un plaisir également à gravir ce sommet. Mais le Mont-Valier doit se respecter. Et il se mérite aussi. D'autant que certains itinéraires se sont avérés très dangereux. Car en montagne, le danger est partout. Eh bien, il y a eu sur ces trois voies les plus empruntées, celle par la vallée du Ribérot ou encore la vallée d'Estour, celle du Port d'Ola. Alors depuis le Port d'Ola, c'est dommage que la route ne soit pas accessible, parce que là il y a un point de vue remarquable, vraiment remarquable, unique, j'ajouterai, sur toutes les montagnes et en particulier sur le Mont-Valier. Et puis on a tracé également en dehors de ces voies de nouvelles voies réputées, disons, un certain temps infranchissable, et la face est qui a été conquise en 1936, le couloir de Faustin en 39, et la face nord donc qui a été vaincue pour la première fois en 1956. Par contre, pas Daniel Tourte, également Henri Lacassagne, et puis malheureusement l'année suivante, c'était en septembre 1957. Sur cette face est du trou noir, c'est le drame. Beaucoup de Couseranais peuvent s'en souvenir encore, parce que ça avait énormément marqué. Daniel Tourte, Henri Lacassagne et Cazot, compagnons de cordée, paieront de leur vie cette tentative d'ascension qui restera longtemps vierge. Finalement, le premier du trou noir aura lieu, ce qu'on a dit la première ascension, en 1971, par un autre amoureux des Pyrénées, longtemps fasciné également par le Mont Valier, qui contemplait d'ailleurs depuis de nombreuses années dans la plaine de Toulouse à Cazères. Et c'est avec trois compagnons comme lui, donc, qu'il va entreprendre des courses difficiles. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement, il voulait rendre un hommage à Daniel Tourte, le seigneur du Couserans. Ce pyrénéiste téméraire, c'est Louis Audoubert, est très connu dans la région, puisqu'il était originaire du pays toulousain. Et on peut ainsi comprendre que cette icône si chère aux Couseranais, qui a suscité une véritable fascination, et qui a engendré également tant d'histoires, mais aussi beaucoup, beaucoup de légendes, et qui se sont transmises de génération en génération. Et c'est vrai qu'en effet, ce Mont Valier, et on peut dire que c'est un pays de légende également. Et alors ce fut le premier évêque, comme j'ai dit, du Couserans, 12 siècles plus tard, après c'est Bernard de Marmiès, qui fut le 63e, après le premier qui a Saint-Vallier. Et c'est lui qui fit édifier également le palais des évêques de Saint-Dizier. C'est lui également qui, en 1672, fera ériger une nouvelle croix en pierre d'environ 55 cm sur 55 pour remplacer donc celle réduite à l'état de ruine. Et elle subira aussi, trois siècles plus tard, le même sort, cette fameuse croix. Pourquoi ? Parce qu'on la retrouvera au fond d'un ravin, donc fort abîmé. Et elle sera remontée, mais va se dégrader très vite, puisqu'elle avait également énormément souffert dans sa chute. Et entre-temps, c'était vers 1893, une autre croix, celle-là en fer forgé, avait été scellée à proximité, c'était par l'abbé Lambert. Alors l'abbé Lambert qui était directeur de l'école apostolique de Pamiers. Mais dans les années 80, là encore, des amoureux de la montagne, et j'ajoute toujours au-delà de toute idéologie d'ailleurs, envisagent donc de remplacer la croix de pierre, qui n'est plus qu'un vestige. Elle avait tellement souffert qu'elle n'avait plus rien d'une croix. Et alors c'était aussi pour un souci de mémoire, ce projet va se concrétiser quelques années plus tard, à l'initiative de l'Association des Amis de Saint-Lizier et du Couserans. Alors cette association qui a fait énormément pour notre patrimoine, sous l'impulsion de la dynamique présidente Mademoiselle Simonari. Moi j'en parle d'autant que je la connaissais très bien parce qu'elle m'a vu, moi elle habitait sur les boulevards et elle m'a vu tout petit. Donc, vas-y Simon Larrive, qu'on a un peu oublié, mais s'il fallait faire l'inventaire de tout ce qu'elle a pu sauver, croyez-moi, c'est considérable. Donc c'est un petit hommage, vous voyez, j'ai une petite pensée pour Mademoiselle Simon Larrive. Et elle va faire ériger une nouvelle croix de granit qui sera posée en juin 1987. Et une croix de 80 kilos qui avait été héliportée. La bénédiction se fera le 6 septembre de la même année, en présence d'une centaine de montagnards. Elle sera bénite par l'abbé Jean Forous, qui était alors archiprêtre de Saint-Girons, et elle va veiller ainsi sur tout le Couserans. Jusqu'au début du mois de juillet 2011, date également de la découverte à nouveau de son saccage. Et oui, elle a été saccagée à coups de c'est pire, là, à coups de massette. Non, et ceux qui étaient montés, ils n'étaient pas montés, comme on dit, les mêmes vivres. Et alors, bien sûr, au grand désespoir de tous ceux qui avaient œuvré, donc, pour quand même, ce n'est pas une petite affaire, d'abord de la montée, de la sceller. Alors, j'ai retrouvé les noms. Il y avait Loïc Massat, Jean Soum, Marcel Blasi, bien entendu, qui était impliqué également, lui, à l'Office du tourisme. Voyez. Et ça allait au-delà des locaux. Et alors, c'est vrai que quelqu'un avait écrit « J'ai mal à mon Couserans, à ma montagne ». Et il y avait de quoi. Et alors, presque aussitôt d'ailleurs, il fut donc décidé d'une nouvelle fois de la remplacer. C'est ce qui vient d'être fait, mais ça a été fait, disons, l'année d'après, c'était en juillet 2012. Là encore, la bénédiction de ce symbole, qui appartient à nous tous d'ailleurs, s'est faite au début de ce mois, par la volonté des hommes, cette croix d'acier de 2 mètres de haut, avec ses 272 kilos, va défier, on l'espère, à nouveau le temps, très longtemps. Et s'il faut laisser, comme on dit, le temps au temps, il nous restera de ce valier mythique des légendes qui ont traversé les siècles et qui continuent à alimenter l'imaginaire. Et alors, moi j'en ai relevé quelques-unes, je vous en donnerai d'autres. Et la légende des brebis antiques. Au temps où Jésus-Christ et Saint-Pierre voyageaient sur la terre et qui, en passant sur nos terres, en rencontrant sur les hauts pâturages un pâtre avec son chien, « Où vas-tu ? » lui dit notre Seigneur. « Je vais conduire mon troupeau sur ce mont. » Alors le Seigneur le réplique, « Il faut dire « Si Dieu le veut », reprit le maître. « Qu'il le veuille ou non, ronchonne le pâtre, j'irai quand même. » Quand soudain, pâtre, brebis et chien furent transformés en pierre blanche que la colère du ciel a attachée au granit. Vous qui escaladez ces monts, cherchez bien et vous les verrez. Elles sont toujours là. Et alors, non loin de là également, une autre légende, au bord de l'étang rond, au milieu des éboulis, une immense dalle de granit qui est en équilibre instable sur une autre bloc. C'est, entre guillemets, la cloche du valier. Paraît qu'un homme fit un jour contrepoids sur cette extrémité. La dalle finit par frapper sur l'angle du roc voisin, rendant un son sourd, lugubre, mais intense, qui se fit entendre lointain. Et il se dit que la veille de certaines fêtes, les fées de la montagne font avec cette cloche un vacarme infernal. Alors j'en ai une troisième là. C'est une autre légende contée il y a beaucoup plus d'un siècle par le Majorau. Donc, c'était le chef des pâtres qui allaient faire dans les estives, donc, et j'en avais parlé. Il était de Balaguer, de Milouga, vous voyez, et tant qui, à ses dires, serait de véritables tombeaux. Pourquoi ? Parce qu'à un grand nombre d'Espagnols. Cela s'était passé il y a très longtemps. Alors que ces derniers, dont les Espagnols font nombreux, qui venaient faire paître sur les montagnes environnantes, ils venaient aussi faire main basse sur les troupeaux français. Et alors les bergers couseranais, qui n'étaient que 4 ou 5, bien entendu, en sous-nombre, sans armes, depuis le tuc de Sèbes, quand ils se sont aperçus de ça, avec une trompette de verre, et de gros cris appelèrent au secours tous ceux de la vallée de Bédemal. « Turlurette, Turlurette, au secours, vers les montagnes d'Aouesh, car la génisse de la vache a été mise dans la chaudière, et le chien de Bobby sur le bio, pour être tué. » Et alors les défenseurs, bien entendu, vont arriver en grand nombre, furieux, ils vont se précipiter sur tous ces envahisseurs, les projeter dans les étangs. Mais un seul va en réchapper. Et bien entendu, il va filer vite, annoncer la triste nouvelle de l'autre côté de la frontière, en répétant cette complainte. « Femme de l'ours, couvrez-vous de vos capuchons, vous êtes tous veuves. Aujourd'hui encore, la nuit tombée, il arrive d'entendre des gémissements qui montent de ces lacs. Mais restons prudents et attentifs, car ces plusieurs histoires, plusieurs légendes qui existent encore, et on refera ensemble une belle excursion la semaine prochaine. »